Tout commence là, in utero. Nous venons tous de là. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliers de milliards de cellules. Nous avons tous été des embryons, puis des fœtus. Nous sommes nés et sommes devenus des bébés. Quel bébé étiez-vous? Est-ce que vous vous en souvenez? Non, hélas non. Nous ne nous souvenons pas de nos bébés. C'est l'une des plus grandes énigmes de la vie. C'est comment d'être un bébé? Je m'appelle Zoé Varier et je vous propose de vous mettre à l'écoute des bébés. Et pour mieux entendre ce qu'ils ont à nous dire, peut-être faudra-t-il que vous fassiez appel à la part de bébé qui est en vous.
Une autre dimension qui est fascinante chez le bébé, ce sont d'extraordinaires observateurs, comme on disait, c'est-à-dire des apprenants extraordinaires. Si on veut comprendre l'apprentissage, il n'y a pas de meilleur modèle que le bébé. C'est un peu la Rolls-Royce de l'apprentissage, vraiment, c'est les meilleurs. Et c'est très intéressant, puisque quand, voilà, à nouveau, on voit un bébé, bah, il manque d'autonomie dans beaucoup de domaines, mais ce qu'il réalise dans le domaine de l'apprentissage est exceptionnel. Si on pense juste à l'apprentissage d'une ou plusieurs langues maternelles, qui se fait spontanément, sans effort, parfaitement. Et nous, en tant qu'adultes, on passe des années, on s'efforce, on garde un accent, on a du mal. Il y a des compétences d'apprentissage qui sont exceptionnelles chez le bébé et voilà, qui sont sans équivalent. On parle beaucoup des modèles d'intelligence artificielle qui font des choses qui nous étonnent, c'est vrai. Mais on n'a pas aujourd'hui un modèle d'intelligence artificielle qui est capable de faire ce que fait un bébé. Donc c'est une autre dimension d'intérêt effectivement pour le bébé dans notre recherche, c'est comprendre aussi ces mécanismes d'apprentissage qui permettent d'aller au-delà des connaissances noyaux.
Nous sommes toujours avec Olivier Mascaro, chercheur en psychologie du développement au CNRS et membre du Labo Bébé de l'Université Paris-Cité. Dans l'épisode précédent de notre podcast, nous nous sommes demandé si la perception des relations sociales et plus particulièrement des relations de pouvoir étaient des connaissances noyaux que le bébé porte en lui dès la naissance et qui ne nécessitent aucun apprentissage. C'est une question vertigineuse en soi, puisque cela signifierait que les bébés naissent avec une perception de leur environnement social et de ce qui régit les relations entre les êtres humains. Mais plus fondamentalement encore, les recherches que conduit Olivier Mascaro nous amènent à nous interroger sur une dimension essentielle de la nature humaine.
En fait, l'ambition, c'est vraiment de résoudre une espèce de grande question philosophique sur l'origine de la pensée humaine. Et alors, donc, ces connaissances noyaux, elles auraient plusieurs propriétés. Une propriété, c'est que donc elles émergent très tôt et indépendamment largement de l'apprentissage, mais aussi elles resteraient stables tout au long de la vie.
Oui,
donc, ces connaissances qu'on observe chez le bébé, elles resteraient chez l'adulte et elles continueraient à colorer notre représentation du monde, y compris chez l'adulte.
Donc, pour essayer de comprendre l'origine de la pensée, vous essayez de savoir ce qui se passe dans la tête des bébés.
Oui. C'est une des grandes ambitions. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux bébés? C'est vraiment une des grandes ambitions, c'est de mieux comprendre la façon dont l'être humain pense en allant voir quels sont les éléments de base qui structurent la pensée très très tôt et qui vont nous permettre justement de comprendre ensuite des choses plus complexes, y compris chez l'adulte.
C'est génial!
C'est vraiment une nouvelle frontière intellectuelle quelque part. En fait, il y a plusieurs choses qui rendent ça excitant, mais c'est une nouvelle frontière parce que pendant très longtemps, on n'avait pas forcément les outils pour pouvoir analyser la pensée du bébé.
Dans l'épisode précédent de ce podcast, Olivier Mascaro nous a expliqué que les chercheurs interrogent les bébés grâce à l'orientation de leur regard. Mais quels sont ces nouveaux outils dont les scientifiques disposent pour comprendre ce qui se passe dans la tête des bébés?
ces nouveaux outils, ils sont liés largement, pas forcément à des développements techniques extraordinaires, mais plutôt à une compréhension du fait qu'on peut utiliser ces outils pour interroger les nourrissons. Alors, il y a tout ce qui est autour du regard. Est-ce que la pupille se dilate un petit peu plus, ce qui serait un marqueur d'effort psychologique quand vous présentez quelque chose qui va contrevenir aux attentes, par exemple, du nourrisson? Et puis, vous pouvez aussi avoir d'autres mesures physiologiques, ce que vous mentionnez. Le rythme cardiaque, par exemple. Ça peut être un indicateur de l'effort cognitif ou de la relaxation. Donc, dans une étude, on regardait, par exemple, est-ce que l'enfant se relaxe quand il pense que sa maman le caresse? Alors, pour ça, on va mesurer le rythme cardiaque du nourrisson. Et on lui fait croire que sa maman le caresse, en fait. On a tout un scénario, c'est pas tout à fait vrai, mais on lui fait croire que c'est le cas. Et là, on va voir que son rythme cardiaque va décélérer. C'est un indicateur de relaxation, par exemple, qu'on peut utiliser. Et puis, il y a d'autres mesures qui peuvent être utilisées qui relèvent plus de l'enregistrement de l'activité cérébrale. Par exemple, l'électroencéphalographie. Le cerveau, donc, émet une activité électrique, hein, les neurones émettent des décharges, et donc on peut mesurer cette activité électrique et ensuite l'analyser pour analyser finalement comment l'enfant traite un scénario. Vous avez d'autres mesures qui reposent sur la mesure, pareil, de l'activité cérébrale, mais cette fois-ci en mesurant le flux sanguin à l'intérieur du cerveau. Donc c'est la même logique que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Donc on peut mesurer les changements dans le flux sanguin à la surface du cortex chez le jeune enfant. Donc en fait, le domaine a développé toute une variété d'outils que l'on peut utiliser pour interroger ce qui se passe chez le nourrisson. Et puis, il n'y a pas que ces outils-là, il y a aussi la compréhension, je pense, du fait que, justement, il y a une sophistication quand même des compétences et de la pensée des jeunes enfants qui nous amène à leur proposer des scénarios dans lesquels on va pouvoir analyser leurs pensées, et parfois avec des mesures qui peuvent être très simples. On peut aussi se contenter de regarder comment ils vont se comporter, est-ce qu'ils vont aller chercher un objet, est-ce qu'ils vont essayer d'interagir avec quelqu'un. On n'est pas obligé d'utiliser que des choses très très sophistiquées d'un point de vue technique pour pouvoir analyser ce qui se passe dans la tête des bébés.
Il y a eu par exemple des expériences scientifiques qui portent sur les représentations morales des bébés et les premières conceptions du bien et du mal. Ces représentations sont-elles présentes dès la naissance? Cette question reste encore ouverte, mais elle fait écho à celle que se sont posées les philosophes qui se sont intéressés à l'émergence de la moralité chez l'individu. Est-ce que l'être humain est à la naissance un être amoral par nature?
Moi, je n'ai pas travaillé directement là-dessus, mais il y a tout un domaine d'études qui s'est intéressé en fait à ce qu'on appelle les représentations morales émergentes, ou on dit proto-morales, enfin les bases des jugements en termes de ce qui serait bien et pas bien. Le bien et le mal, est-ce qu'il y a déjà une sensibilité à ça dans le domaine social? Alors il y a toute une série de travaux qui ont été menés notamment par Kiley Hamlin qui s'intéressent à ça. Ce qu'ils vont voir, c'est d'abord des situations donc, où ils vont essayer de voir si l'enfant préfère quelqu'un qui aide plutôt que quelqu'un qui empêche quelqu'un d'autre à réaliser ses buts. Est-ce qu'il préfère un petit personnage qui en aide un autre à escalader une colline, ou un petit personnage qui empêche l'autre d'escalader une colline? Et alors ce qu'on va voir, c'est que si vous montrez ce type de scénario dans un petit théâtre, et ensuite vous montrez les deux personnages, celui qui a aidé, celui qui a empêché, dès l'âge de 3 mois, ils vont plutôt s'orienter, ils vont regarder un peu plus celui qui a aidé. Et puis à partir de 5-6 mois, c'est l'âge où ils commencent à être capables d'attraper les objets, ils vont plutôt s'orienter et attraper celui qui a aidé, plutôt que celui qui a empêché, comme s'ils avaient formé une préférence pour cet individu. Et donc on parle des prémices d'un jugement moral, c'est-à-dire au moins une évaluation positive ou négative du fait d'aider ou d'empêcher, qui serait là, très précocement.
Olivier Mascaro me montre une vidéo. Voici le type d'expérience que l'on peut mener pour évaluer les représentations morales des bébés.
Participants, je vois 6 et 10 mois.
Voilà, 6 et 10 mois. Là, je vous montre une étude, donc ce n'est pas une étude qu'on a réalisée, c'est une étude qui a été menée par Kiley Hamlin, dans laquelle on montre c'est un petit théâtre, en fait, et vous avez un personnage qui essaie d'escalader une petite colline. Alors, c'est une petite balle rouge, à nouveau, qui essaie d'arriver au sommet d'une colline. Et puis, il va y avoir différents types de scénarios qui sont montrés à l'enfant. Un scénario dans lequel vous avez un premier personnage qui pousse le personnage qui essayait d'escalader en haut de la colline, qui l'aide à escalader la colline. Et puis, un deuxième scénario dans lequel vous avez un autre personnage, donc ici un petit triangle jaune, qui l'empêche d'escalader. Et donc ça, ça va être montré plein de fois à l'enfant, jusqu'à ce qu'il atteigne ce qu'on appelle une habituation, c'est-à-dire qu'il soit ennuyé par ce qu'on lui présente, pour qu'il ait vraiment bien mémorisé tout ce qui lui est présenté. Et puis dans la phase de test, ils vont simplement montrer à l'enfant les deux personnages côte à côte, et ce qui va être mesuré, c'est lequel des deux personnages l'enfant approche en premier. Est-ce qu'il approche celui qui a aidé, ou est-ce qu'il approche celui qui a empêché en premier.
Et là, le bébé qu'on vient de voir n'a aucun doute et prend tout de suite celui qui a aidé en main.
Oui, c'est ce qu'on observe dans cette étude. Alors, évidemment, là, c'est un enfant, il y a de la variabilité, tous les enfants ne font pas la même chose, il y en a qui choisissent quand même celui qui a empêché. Mais quand on regarde au niveau d'un petit nombre d'enfants, un nombre suffisant d'enfants, on va voir que le plus souvent, ils vont choisir le personnage qui a aidé.
Que se passe-t-il dans la tête des bébés ? Quelles sont les origines de la pensée humaine ? Comme nous, les bébés ont une conception du bien et du mal. Ils ont des représentations morales. Comme nous, les bébés ont une perception des relations de domination. Autre question. Est-ce que comme nous, les bébés ont des attentes de rationalité et d'efficacité ? Vous avez certainement remarqué que nous, adultes, sommes des êtres efficaces et rationnels. Et pour reprendre un exemple que m'a donné Olivier Mascaro, si vous décidez de faire un Paris-Marseille, vous ne penserez pas passer par Lille. Vous pensez certainement que cela est un choix de bon sens dicté par la raison. Mais s'il en était de même pour les bébés, est-ce que les bébés partagent ces attentes d'efficacité et de rationalité? Cette question intrigue Olivier Mascaro et de nombreux autres chercheurs. Drôle de question, non?
Ça, c'est une drôle d'idée, mais en fait, c'est au fondement vraiment de notre capacité à comprendre comment les gens agissent. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'études, et ça c'est aussi quelque chose, c'est une des grandes découvertes du domaine lorsqu'on s'intéresse aux représentations sociales, c'est la capacité des enfants à comprendre comment les gens agissent quand ils souhaitent réaliser quelque chose, quand ils ont un but. Alors en tant qu'adulte, quand on doit prédire et interpréter le comportement de quelqu'un, en fait on utilise une forme d'attente d'efficacité, ou même on parle parfois d'attente de rationalité dans une certaine mesure. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que très très tôt, les enfants vont avoir cette attente d'efficacité.
Même les bébés ?
Même les bébés. Et le bébé, dès 3 mois, en fait, on va voir qu'il va y avoir cette attente d'efficacité. Ils vont s'attendre à ce que si quelqu'un essaie d'attraper un objet, il essaie de l'attraper de manière directe, donc en tendant la main directement vers cet objet, plutôt qu'en faisant un grand détour pour s'en saisir, sauf s'il y a une bonne raison de faire ce détour. Donc s'il y a un obstacle que la personne doit éviter, ils ne vont pas être surpris par ce scénario. Mais s'il n'y a pas d'obstacle et que tout d'un coup la personne fait un grand détour pour se saisir d'un objet, ils vont être plus ou moins surpris par ce type d'événement, ce qui montre qu'ils ont déjà cette attente d'efficacité, où on parle parfois d'attente de rationalité, qui est au fondement de notre capacité à comprendre comment les gens agissent.
Les bébés ont donc des attentes d'efficacité dès l'âge de 3 mois. Cette découverte est le résultat de recherches menées par 2 scientifiques de l'Université de Harvard. À partir de leurs travaux, Olivier Mascaro a proposé aux bébés de nouvelles situations dans lesquelles les comportements inefficaces sont partagés par plusieurs personnes. Comment les bébés interprètent-ils les situations quand les comportements inefficaces sont partagés par plusieurs personnes ?
En fait, ce qui nous intéressait, c'est des situations qui, chez l'adulte, souvent servent de signal social. Par exemple, les rituels. Les gens réalisent une action de la même manière sans qu'il y ait forcément une contrainte physique qui explique pourquoi ils réalisent cette action de cette manière-là. Alors, en anthropologie et puis en psychologie, on pense que c'est pour... ça peut avoir une valeur de signal social. On signale qu'on partage un lien social. Alors, on voulait voir, bah, est-ce que les bébés ont cette sensibilité-là ? Et alors, on leur proposait des scénarios où les agents reproduisaient les actions les unes des autres, et parfois ces actions étaient efficaces, c'est-à-dire qu'elles étaient justifiées par les contraintes, donc suivre un chemin, par exemple, lorsqu'on n'a pas le choix. Donc c'est un petit labyrinthe et il faut suivre un chemin compliqué pour aller à travers ce labyrinthe, parce que on n'a pas le choix, il y a des contraintes qui nous empêchent de le faire. Ou des situations dans lesquelles ces comportements étaient inefficaces. Suivre un chemin très compliqué pour atteindre une destination, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison de l'expliquer. Et ce qu'on leur montrait, c'est des individus qui imitent cette action, donc inefficace ou irrationnelle. Et ce qu'on observait, c'est que donc, quand cette action inefficace ou irrationnelle est imitée, ils ont des attentes plus fortes d'affiliation, de lien social, que quand les actions qui sont imitées sont efficaces. Et ça fait sens dans un sens. Si vous voyez à nouveau deux personnes qui voyagent de Paris à Marseille et qui prennent le chemin le plus court, est-ce que ces personnes ont un lien particulier ? Pas forcément, finalement, peut-être. Par contre, si les deux passent par Lille, là, vous allez vous dire, mais il y a peut-être quelque chose qui unit ces deux personnes, qui fait qu'elles ont quelque chose en commun. Cette irrationalité, elle nous paraît, elle peut être comprise dans un sens de lien social. C'est une façon de signaler aussi un lien social, une adhésion à un individu, par exemple, dans ce contexte-là. Mais toute cette compréhension de l'action, en fait, des buts des agents et comment les gens vont agir, en fait, pour réaliser leur but, c'est quelque chose qui est assez sophistiqué et qui est présent très très tôt. Mais quand on y pense, c'est normal parce que c'est très fondamental. Si on n'a pas cette compétence, c'est presque impossible de comprendre comment les gens agissent.
Non seulement les bébés perçoivent le caractère inefficace de certaines actions, mais quand elles sont partagées par plusieurs personnes, les bébés sont capables d'analyser cette situation et d'en déduire qu'il existe un lien social entre ces individus. C'est fascinant, vous ne trouvez pas ? Dans le prochain épisode de notre podcast « Les super-pouvoirs des bébés », il sera question de l'humour. Les bébés nous font rire et ils le savent. Quand et comment les bébés apprennent-ils à percevoir et à produire de l'humour ? Les super-pouvoirs des bébés est un podcast documenté par Anna Massardier, monté par Karen Dehay, mixé par Basile Bocquer et Baptiste Collion, réalisé par Josépha Lebrun et écrit par Zoé Varier. Les super-pouvoirs des bébés est un podcast original de France Inter.